Bonjour à tous, c'est Denis Brognard. Vous écoutez Vie d'aventure, un podcast où je m'entretiens avec des hommes et des femmes aux destins extraordinaires. Des aventuriers, scientifiques, photographes, navigateurs, plongeurs ou encore alpinistes. Ils ont en commun une soif d'exploration. Je vais à leur rencontre, ils se confient sur leurs exploits, leurs expériences, en traduisant par des mots leurs émotions. Une photographie sonore avec des personnages hors normes qui forcent le respect par leur courage et la dimension de leur engagement. Ces héros des temps modernes vont vous transporter dans leur monde, vous permettre de vous évader et de réfléchir avec eux à l'évolution de notre planète. Prenez le temps de les écouter, ces baroudeurs, ces voyageurs. Voici tout de suite un nouvel invité dans Vie d'aventure. Steven Le Yarrick a failli devenir cycliste professionnel. Failli seulement. Mais de cet échec, il en a fait une force. Il est devenu un aventurier explorateur à vélo autour du monde. Un glouton qui avale les milliers de kilomètres et les dénivelés comme nous prenons notre voiture. Il est infatigable, il pédale là où l'on mettrait à peine le pied pour sensibiliser encore et toujours les hommes sur le réchauffement climatique. Steven Le Yarrick aime partager ses périples, ses émotions, ses coups de gueule et ses doutes. Il va vous emporter avec lui entre Paris et Dakar, sur les chemins en haute altitude dans l'Himalaya ou encore sur le lac Baïkal gelé, toujours à vélo, même si parfois son vélo se transforme en fardeau sur son dos. Steven Le Yarrick a la langue bien pendue, il est mon invité aujourd'hui dans Vie d'aventure. Bonjour Steven.
Bonjour.
J'ai essayé de calculer le nombre de kilomètres que tu avais pu parcourir à vélo entre ta carrière de cycliste amateur et ta carrière d'aventurier. On est entre 400 et 500 000 kilomètres. Avant de revenir sur tes aventures, avant de partir autour du monde, d'abord, pourquoi tu n'es jamais devenu coureur professionnel ?
Je pense que je n'étais pas fait pour ça. J'en suis aujourd'hui intimement persuadé. Et moi, j'avais besoin d'aventure, même de jouer, quoi, de faire le con. Je pense que j'étais pas fait pour ça.
Pas prêt à faire autant de sacrifices.
Ouais. Et puis, en fait, je me suis rendu compte au-delà. On parle toujours de sacrifices, de vie de moine, etc. Et en fait, il y a des mecs pour qui ce n'est absolument pas un sacrifice de ne rien bouffer. De ne pas faire le con, de ne pas aller s'amuser, de ne pas faire le même parcours tous les jours. J'ai eu des coéquipiers, des notamment étrangers, des pays de l'Est, etc. Ils faisaient tous les jours le même parcours, tous les jours la même bosse qui répétait 30 fois, 40 fois, 50 fois. Et ça ne les dérangeait pas, en fait. Donc je me suis dit à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et puis, ouais, j'avais trop besoin d'aventure, en fait, de l'aventure non barriérée, en fait.
Finalement, voilà. C'est un mal pour un bien, Steven, que cette carrière professionnelle ne se soit pas ouverte à toi, parce que c'est peut-être là que tu as rencontré ton destin.
Ouais, je ne sais pas si on peut parler de destin ou parler de chance, parce qu'aujourd'hui, c'est facile de le dire. Aujourd'hui, évidemment, quand je fais une conférence où les gens viennent pour voir cette espèce d'animal qui fait des choses autour du monde, qui réalise des rêves peut-être qu'ils ont ou qu'ils avaient eux, aujourd'hui, c'est facile de le dire parce que je le dis toujours, je suis heureux aujourd'hui dans ma vie. Mais à l'époque, je pensais qu'à ça, quoi. Quand tu fais 25 000 km par an, tu penses qu'à ça, à réussir. Et moi, je l'assumais. J'ai écouté beaucoup d'interviews. J'adore les biographies, autobiographies de footballeurs ou de sports qui sont vraiment en dehors de ce que je faisais moi, des sports collectifs ou des boxeurs, par exemple. Et il y a des mecs qui assument profondément de n'avoir pensé qu'à ça pendant 10, 15 ans, 20 ans. Et moi, j'étais comme ça, en fait. Et il y a des mecs qui ne pensaient pas du tout à ça et qui disaient « Bon, je m'en fous, si ça passe, ça passe. » Et en fait, ils sont passés pro. Du coup, ouais, aujourd'hui, oui, je suis heureux dans ma vie, je suis heureux dans mes aventures, je suis heureux dans ce truc de liberté. C'est ma vie, en fait. En fait, j'adore être sur la route. Je dis toujours ça, ma maison, c'est la route. Quand on me demande où c'est que tu vis, j'ai ma maison, c'est la route, en fait. Je suis un peu SDF et en même temps, je suis habitant du monde, quoi.
Steven, est-ce que tu échangerais aujourd'hui tes aventures dans l'Himalaya, en Afrique et ailleurs contre Une victoire sur Milan-San Remo, une victoire sur le Tour de France, un titre de champion de France de cyclisme.
Je dis toujours qu'on joue un rôle dans la vie, tu vois. On joue un rôle et on essaie de jouer notre meilleur rôle. J'aurais adoré être sur le podium du Tour de France pour voir ce que ça fait, tu vois, d'avoir 50 000 personnes devant soi sur un podium et se dire, putain, bordel, c'est moi le meilleur de ça et les gens m'admirent pour ça. Mais en fait, j'ai été aussi très heureux quand je suis arrivé à Dakar et qu'il y avait 100 personnes qui m'attendaient. Quand j'arrive au bout du Great Himalaya Trail où je suis tout seul avec juste mon caméraman et qu'on est tous les deux et qu'on se pleure dans les bras parce que juste j'étais fier de moi, quoi. Et la fierté, elle peut arriver quand tu gagnes le tour ou juste quand tu réalises quelque chose que tu croyais pas possible pour toi quelques années avant.
Steven
Donc
Le
voilà.
Yarrick, tu n'as pas été un professionnel dans le sens, entre guillemets, noble du terme, mais tu es quand même un cycliste professionnel, puisque tu vis de cette passion, et tu le disais si bien tout à l'heure, tu vis sur la route en pédalant. Et tu as pédalé plus de 2 000 km, 90 000 mètres de dénivelé, ce qui est considérable, en 2017-2018, lorsque tu décides, à vélo, avec de l'alpinisme aussi forcément, de traverser le Népal. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête pour aller là où les gens hésitent à s'aventurer à pied, alors que toi tu y vas avec ton vélo, avec ton VTT?
Quand j'étais coureur, c'était pareil. Et quand j'habitais, par exemple, dans les Alpes, l'hiver, on me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire au Revard? Mais il faut faire du ski de fond, Steven. Je dis non, bah, moi, je suis pas trop, je sais pas skier déjà, donc voilà. Et je montais deux, trois fois le Revard dans la journée, tu vois, en plein hiver, parce que juste je voulais voir ce que c'était de monter le Revard. Et puis on me l'interdisait surtout. Et là, on m'interdisait presque de faire du vélo sur l'Himalaya, parce que tu vois, c'est traverser le Népal d'est en ouest, mais par sa trace la plus haute, tu vois, le Great Himalaya Trail, c'est une moyenne de 4 000 mètres. Tu vois, tu vis à 4 000 mètres en moyenne, mais tu as 15 passages au-dessus de 5 000, tu as deux passages à 6 000, et des différences de climat, de température. Mais t'es pas le bienvenu, quoi. Déjà, c'est pas un terrain pour les humains, mais un mec avec son vélo, ça sert à rien, en fait, à vélo là-haut.
On a dû te
Mais en
prendre pour un
fait.
fou parfois, non?
Ah bah ouais, il y a eu, on m'a pris pour un fou, aussi bien en Occident que là-bas, mais surtout il y a des villages dans lesquels je suis arrivé où ils n'avaient jamais vu de vélo. J'étais un espèce d'astronaute, tu vois, comme si un astronaute atterrissait ici ou un extraterrestre qui arrivait avec son vaisseau spatial et il me regardait et il tapait la tête sur le vélo parce que j'étais une espèce de divinité. Et il se disait mais il est, enfin, soit il vient d'ailleurs, ils sont bizarres. Mais en fait, comme j'étais souvent accompagné d'un Népalais, de Nawang, qui a passé beaucoup de temps avec moi là-bas, il se disait, enfin, il lui posait les questions à lui, quoi, parce qu'il parlait pas anglais. Et ces tribus tibétaines, là, notamment du début de l'expédition, ouais, ça marquera toute ma vie, parce qu'après, il y a eu des fêtes, etc., pour m'accueillir, parce que c'était fou, quoi, d'arriver avec un vélo là à 5 000 mètres et ils n'avaient pas vu d'occidentaux. Depuis longtemps, quoi. Donc ouais, il y avait ce truc impressionnant, mais c'est eux, la performance, c'est relatif parce que tous les jours, tu sais, quand t'as 12 ans là-bas, des fois tu portes jusqu'à 50 kilos, tu portes un mini frigo sur ton dos ou des boissons pour 3 mois pour toute ta famille. Donc ouais, ils se disaient juste, c'est quoi cette machine à couture, mais avec laquelle tu peux faire du motobike, comme ils disaient.
Alors Steven, quelques questions précises pour qu'on parte avec toi dans ce voyage, pour qu'on ait l'impression d'être ton équipier. Quel genre de route, de chemin empruntais-tu?
Quand tu fais le Great Himalaya Trail, c'est comme si tu disais, bah, moi, je veux acheter le permis pour traverser le Langtang. Donc, tu prends le trekking du Langtang. Je veux traverser les Annapurna. Je veux traverser la vallée du Khumbu, donc la vallée de l'Everest, tu vois, qui est voilà, la plus connue avec les Annapurna. Et voilà, Manaslu, Kanchenjunga, troisième sommet du monde. En gros, tu vas au camp de base de chaque sommet, mais qui sont huit sommets, les huit sommets les plus hauts du monde, hein, pratiquement. Du coup, tu vas à des camps de base qui sont entre 3 500 et 5 500 mètres.
Mais avec quel chemin? Parce que on imagine mal être à vélo dans ces montagnes escarpées.
C'est excessivement montagneux, donc des fois tu as des marches de 30 cm jusqu'à 1,20 m, des chemins qui sont pas toujours praticables parce que on nettoie les chemins pour les Occidentaux, pour soit les expéditions qui vont sur les hauts sommets, soit pour tout simplement les bêtes, quoi, pour transporter les bêtes, etc. Donc Les régions les plus traversées, Annapurna et tout ça, sont assez propres. Tu as des petits chemins, des sentiers, mais tu montes quand même des marches, ouais, des marches de 30 cm à plus d'un mètre, avec un vélo soit sur le dos, soit avec toi, soit tu es sur le vélo. Et après, oui, des fois, tu as des single tracks comme tu peux en avoir quand tu fais le tour du Mont Blanc, par exemple. Ça ressemble beaucoup à un mélange parfait entre le tour du Mont Blanc, où tu traverses ces trois pays, France, Italie, Suisse, et le GR20 en Corse. Voilà, en Europe, ça pourrait être ça. Après, il y a des trucs qui sont beaucoup plus engagés. En gros, je faisais en dénivelé l'équivalent d'un Mont Blanc tous les 2 jours pendant 51 jours. Voilà.
Comment tu vis dans ces moments-là? Tu portes tout sur ton vélo ou sur ton dos?
Et j'avais choisi de porter sur mon dos, contrairement à ce que je fais aujourd'hui, parce que c'était un terrain assez engagé, engageant pour le matériel aussi, parce que dès que tu charges un vélo, ben c'est le vélo qui amortit, c'est les amortisseurs du vélo. Là, il n'y en avait pas beaucoup. En gros, si j'avais un vélo tout à fait commun, assez accessible du grand public, j'avais un vélo à 1000 euros en aluminium, du coup, je portais sur mon dos. Et surtout, je ne supporte pas avoir une assistance. Moi, mes projets sont sans assistance parce que c'est ma définition de l'aventure, quoi. Je trouve ça bête de partir à l'aventure et d'être totalement assisté, comme tu peux l'être dans une vie, comme dans ma vie passée où, quand j'étais coureur, on te change la guidoline de ton vélo, donc le ruban qu'on met sur le guidon, on change tes pneus, on met ta valise dans ta chambre et j'étais perdu, hein. J'étais plus perdu à ce moment-là que quand je contrôle tout ce que j'ai autour de moi. Donc ouais, tu portes quoi. Donc ça représente entre 13 et jusqu'à 22 kilos de matériel dans le sac à dos, plus le vélo sur le dos, ça faisait des fois ouais 35-40 kilos.
Quel est le but de cette expédition au travers du Népal?
C'était aller à la rencontre déjà de moi-même, me prouver que j'étais capable de faire un pas devant l'autre et essayer de réaliser quelque chose. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je connaissais le Népal, j'avais passé 120 jours l'année d'avant avec. J'étais à la limite de rentrer au monastère bouddhiste parce que j'avais la certitude que je n'étais pas fait pour ce monde. En fait, j'avais eu un espèce de burn-out après les Jeux Olympiques de Rio que j'avais fait en tant que communicant pour la Fédération française de triathlon. Et en fait, j'ai eu un trop-plein de performance, en fait. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas fait pour ça, quoi. Les gens me comprennent pas, je comprends pas les gens. Enfin, j'étais perdu, quoi. Et je pars au Népal, je passe 120 jours, je fais de l'humanitaire pour la première fois de ma vie. Je deviens prof dans les bidonvilles de Katmandou. Et donc, l'année d'après, je me dis, mais pourquoi ne pas relier les deux choses qui ont certainement changé ma vie, qui m'ont certainement fait du mal, mais appris beaucoup de choses, c'est-à-dire le vélo et le Népal, qui venait de changer complètement mon existence et de me bouleverser fondamentalement, en n'ayant qu'un seul objectif, c'est être heureux. Et je décide de traverser donc ce qui était l'espèce de Disneyland du Népal, parce que c'est le truc central quand tu dis que tu vas faire le Great Himalaya Trail, c'est soit l'Everest, soit le Great Himalaya Trail. Et là, t'es un semi-super-héros dans les rues de Katmandou quand tu annonces ça. Et voilà, je décide de le faire à vélo parce que c'est mon truc, quoi. Je sais pas, ça fait partie de moi.
Steven, est-ce que ça a changé quelque chose en toi, cette traversée du Népal? Tu as eu l'hésitation de rentrer dans les ordres? Tu as eu envie de changer de vie? Est-ce que ça t'a reconnecté avec ta vraie vie, toi, le gamin de la Courneuve, que de réussir cette performance à la fois psychologiquement et physiquement très éprouvante?
En fait, si j'avais déjà été connecté, j'étais perdu, en fait. J'étais perdu parce que je pense que j'avais pas fait le deuil de ma carrière vélo, ma carrière cycliste. J'avais pas fait le deuil de mon enfance. J'avais pas fait le deuil de plein de choses que certains ne font jamais dans la vie parce qu'on n'a pas le temps de se poser les questions dans la vie. On est dans un espèce de tunnel, tu vois. Je dis toujours, bah, tu fais la crèche, la primaire, le collège, le lycée. Après, il faut avoir un diplôme, il faut passer ton bac et puis tu continues, etc. Et en fait, je me suis jamais posé cette question, même si j'étais à côté, quoi. Et en même temps, je me la posais tous les jours, parce que j'ai toujours voulu être heureux, j'ai toujours voulu faire des choses, j'ai toujours voulu qu'on m'aime, j'ai toujours voulu être admiré, mais je pense comme tout le monde, mais j'avais encore plus besoin d'amour, je pense, plus besoin de réaliser, plus besoin de prouver. Du coup, je me suis trouvé ouais, au Népal, sur cette traversée notamment, parce que
tu parles
j'ai
d'amour,
tellement
mais
été
c'est
chercher
aussi
loin.
t'aimer toi-même.
Ah, mais je me détestais profondément quand j'étais coureur. Tu vois, je dis toujours que j'étais un espèce d'anorexique, analphabète qui essayait de réaliser des performances à vélo et j'y arrivais pas parce que si j'avais réussi vraiment à gagner autant de courses que je l'espérais, je serais passé pro. Et cette frustration, elle te fait perdre confiance en toi, confiance sur le chemin, juste en la vie, en les gens, en tout. Et plutôt que d'être en colère, bah ouais, maintenant je suis un peu plus apaisé, même si c'est pas toujours vrai. Mais ouais, cette expédition était folle parce que tu rencontres des gens qui n'ont rien et ils ont le sourire. Et voilà, et tu te dis, mais il n'y a rien qui est grave en fait dans la vie. T'as besoin de rien en fait. Je me disais, mais Steven, t'as besoin de rien.
Steven, pourtant, c'est compliqué, hein, on le rappelle, 51 jours, des passages extrêmement difficiles. Tu rentres fatigué, malade, et avec cette forme de solitude qui t'accompagne finalement depuis longtemps.
Comme me disaient les Népalais, j'avais un poison en fait à l'intérieur. Et je ne sais pas si ce poison était physiologique, je pense quand même un petit peu psychologique, mais il y avait un mélange des deux. Je rentre à Paris, je me fais examiner, les maladies tropicales et tout, me disent bah, « il n'y a aucun problème, monsieur, vous êtes juste un peu fatigué, vous avez mangé beaucoup récemment ». Et donc je leur explique, ils me disent « mais il faut faire des examens approfondis, on fait les examens, il n'y avait rien en fait ». Et en fait, oui, j'étais excessivement épuisé parce que c'est des journées de 10 à 17 heures par jour. Et dans des conditions climatiques compliquées où tu manges pas exactement ce que tu veux, tu manges presque tout le temps la même chose. Je sais pas si je peux parler de solitude quand je reviens parce que j'étais content de retrouver ma copine de l'époque. Vraiment, j'étais fier de moi. J'avais du mal à trouver les mots d'expliquer ce que j'avais vécu là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, j'utilise pas les mêmes mots que le lendemain de cette expé, quoi, parce que j'avais quand même vécu un petit enfer quand même à la fin.
Tu dis, une expédition comme ça, tu la commences avec les jambes et tu la finis avec la tête. Ça symbolise ton expérience ?
Ouais, ça symbolise ma vie, je crois. Ça symbolise ma vie parce que je dis toujours que j'ai pas de talent, en fait. Moi, mon seul talent, c'est le courage. J'ai peut-être plus de courage que certains. Et mes expéditions, c'est ça, en fait. Comme ça a du sens pour moi, ça me donne de l'énergie. Et quand ça a du sens, mentalement, je suis engagé et surtout les gens aussi. Tu vois, quand il y a des gens qui me suivent, qui me poussent, je me dis, tu peux pas lâcher, quoi. Tu ne lâches rien. Je dis toujours ça hein, dans mes expés, je me le dis à moi-même. On me dit, mais c'est quoi ton gimmick? Je dis, mais ne lâche rien. Parce qu'il faut jamais rien lâcher dans la vie. Faut se battre et faire. Et par contre, si t'es pas sur le bon chemin, si tu sens que t'es vraiment à côté de la plaque, change, perds pas de temps, on n'a que 30 000 jours à vivre dans la vie.
Ça me ramène à une autre de tes déclarations qui est également pleine de puissance. Tu dis « la compétition de haut niveau, et on l'a déjà bien compris, m'a abîmé. J'ai eu besoin de donner un sens à ma vie et d'éveiller les consciences. » Tu avais l'impression d'être dans une impasse. Tu avais l'impression d'être pratiquement dans une camisole de force psychologique qui t'empêchait d'ouvrir tes ailes, d'ouvrir tes bras.
J'étais un espèce d'hyperactif quand j'étais petit et j'étais élevé dans les quartiers populaires de la Courneuve, dans le 93. Tu vois, un peu enclavé avec ses tours tout autour de moi et le vélo, ça a été ce premier échappatoire, quoi. Tu vois, en fait, me barrer, quoi. Juste faire 10 bornes, 15 bornes, 20 kilomètres. Et même aujourd'hui, quand je pars m'entraîner et que je suis en région parisienne, dès que j'arrive dans la vallée de Chevreuse ou dans le 95, je respire, quoi. Et cette époque-là, c'était fou pour moi parce que j'avais l'impression d'être déjà un petit aventurier quand j'allais avec les grands de 16 ans, déjà dans le 95 ou dans la vallée de Chevreuse. Waouh, je suis un aventurier. Pour moi, c'est ça l'aventure, c'est la liberté, en fait. C'est la liberté, c'est juste te dire... C'est un privilège extraordinaire hein, de dire ça et on me pose toujours cette question. sur c'est quoi être aventurier, bah pour moi, c'est ça, c'est mettre du sens dans son existence. Quand je dis éveiller les consciences, c'est qu'à chaque projet, j'essaie d'avoir une valeur forte. Au Népal, c'était évidemment le dépassement de soi, mais c'était la rencontre avec des populations hyper reculées et de montrer qu'ils étaient heureux là où ils étaient. Et même s'ils n'avaient pas assez d'argent pour construire des choses, pour des fois, enfin, ils avaient subi les tremblements de terre à répétition, etc., ils étaient quand même beaucoup plus apaisés que je pouvais l'être avec mon joli vélo sur le dos. Ma camisole de force, j'ai essayé de l'enlever petit à petit et de me dire, on s'en fout, quoi. Je dis toujours ça aux gens, fais-le, quoi. Arrête de croire que c'est facile pour les gens, pour les champions, pour les gens qui réalisent des trucs. C'est dur pour tout le monde. C'est juste, la seule différence, c'est de le faire, en fait. C'est de se battre et d'aller au bout, quoi.
Et l'année dernière, nouvelle aventure, là encore compliquée sur le papier à plein de niveaux, niveau physique, niveau psychologique et niveau géopolitique, puisque tu décides à vélo de partir de Paris pour rejoindre Dakar, un peu plus de 5 600 km en 20 jours sur la route de Guillaumet, de Mermoz, de Saint-Exupéry. Tu as eu cette idée dans l'avion de retour de l'Himalaya pour éviter cette période de déprime entre deux projets où finalement tu es dans une inactivité qui ne te ressemble pas?
J'avais pas envie de remanger de l'Himalaya parce que j'en avais trop mangé. J'avais plus envie d'être à plus de 5000 mètres parce que ça, c'était dur en fait. C'était très très dur l'Himalaya. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour rendre hommage à une valeur qui est beaucoup plus forte que ce que j'avais vécu dans l'Himalaya? La planète. J'avais un truc, je dis, mais en fait, c'est ça le truc, Steven, tu passes ton temps sur la route, qu'est-ce que tu peux faire? Pourquoi je ne ferais pas Paris-Dakar pour montrer déjà ce que c'est que les chaleurs extrêmes, montrer ce que c'est qu'un homme dans ces conditions-là, montrer l'épicentre de la chaleur sur Terre, le Sahara, et ouais, en 20 jours, parce que je suis toujours un peu gogol sur les bords, tu vois. Je me suis poussé physiologiquement, physiquement, mentalement, et puis tous les jours, j'essayais de transmettre ça, quoi, transmettre cette espèce de rêve, ouais, du petit prince un peu quand même.
Steven, rentrons dans le concret de la performance physique sportive. Tu roulais combien d'heures par jour? Avec quelle chaleur au maximum? Quelle météo? Combien de kilomètres? Tu vois, pour qu'on imagine ton quotidien sur ce Paris-Dakar.
Dakar, c'est entre 280 et 360 km par jour, entre 10 et 17 heures de vélo par jour. C'est à peu près les mêmes données au niveau horaire que dans l'Himalaya. Et oui, c'est des changements de température entre 20 et 55 degrés au soleil. Et en gros, ça faisait 70 degrés au sol parce que tu sais, mes pieds, mes roues, enfin, elles étaient plus basses que moi. Il y a la réverbération. Et en moyenne, je roulais entre 25 et 30 km heure en activité, voire 32 sur la fin, parce que j'étais plus fort à la fin qu'au début. Pas beaucoup de sommeil. Je mangeais ce qu'il y avait sur la route. Zéro assistance tout au long du projet. Et puis des milliers de rencontres. Des fois, des trucs imperceptibles, mais voilà, quand je suis derrière un tuk-tuk au Maroc qui roule juste à la vitesse parfaite pour moi, entre 25 et 30 km heure, je suis dans les roues et le gars, ça le fait sourire et je lui dis, je viens de Paris. Et il rigole, quoi, parce qu'il ne me croit pas, évidemment. Mais je lui explique que c'est cool que je sois derrière lui et il transportait, il y avait des moutons dedans. Enfin, bref, c'est le Maroc, quoi. Je pense que je pourrais faire encore mieux aujourd'hui, mais j'en suis déjà très, très content.
Et tu portes ta maison sur ton dos, tu portes en plus ce dont tu as besoin, hein, une espèce de sac dans le prolongement de la selle. Il y a tout à l'intérieur?
Ouais, il y a tout ce dont j'ai besoin. Et des fois, j'en ai beaucoup trop. Et tous les débutants dans ce qu'on appelle le bikepacking. Donc, il y avait le backpacking, qui est, voilà, les mecs qui font le tour du monde ou qui voyagent avec un sac à dos. Et le bikepacking, donc, t'emmènes tout ce dont t'as besoin sur ton vélo. Donc, j'ai trois ou quatre pochettes sur mon vélo, entre mes prolongateurs devant, derrière ma selle, sur le cadre, donc le triangle au milieu. Et oui, je charge en moyenne, entre 10 et 25 kilos. et je peux faire entre 200 et 5 000 km comme ça sans avoir besoin de grand-chose. Mais sur la route, j'ai quand même besoin de me ravitailler en eau, évidemment, et puis en nourriture. Mais j'avais pas de tente sur ce projet. J'avais décidé de pas prendre de tente parce que je voulais la rencontre quand même avec les habitants. Et puis si j'avais un problème, je dormais par terre. Mais ça fait quand même peur d'être dans le Sahara parce qu'on me parlait de scorpions et tout ça. Et puis il fait très froid, contrairement à ce qu'on peut croire. Il peut faire jusqu'à 0 degré, même en été. Très chaud la journée, très froid la nuit. Ouais, j'ai ma maison. Ouais, c'est ma petite maison, j'appelle ça. C'est mon truc à moi. Je sais où sont les choses. En fait, je pense que mon vélo est mieux rangé que mon appartement. Ouais.
Alors, entre Paris et Dakar, tu passes par la France, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et donc le Sénégal. Comment tu as appréhendé les potentiels dangers géopolitiques que l'on rencontre en Afrique?
C'est les gens qui te font peur, c'est les gens qui m'envoyaient des messages, mes communautés, certains fans qui étaient protecteurs et ils avaient raison de m'expliquer que voilà, c'était zone rouge, c'était jaune, jaune. Enfin, j'avais conscience de tout ça. En fait, je ne m'étais pas signalé au gouvernement, par contre, je m'étais signalé nulle part, j'avais été un peu inconscient là-dessus. Mes parents m'ont regardé avec des grands yeux et puis enfin, ils savent que de toute façon, faut même pas essayer de m'arrêter, puisque plus tu essaies de m'arrêter, plus j'ai envie d'y aller. Donc ça, ils le savent, mais au-delà de ça, non, j'avais pas très peur de ça. J'avais pas très peur, sauf quand j'ai passé cette espèce de no man's land entre le Maroc et la Mauritanie, après le Sahara occidental, que les Marocains appellent évidemment Sahara marocain, mais ouais, ça faisait un peu peur parce que t'arrives et tu vois des casques bleus avec des fusils du gros armement, quoi. Et des mitrailleuses et tout ça, et tu dis, bon, j'ai 3 à 5 km à tirer. Là, je vois une file de 300 camions devant moi où il n'y a pas de chauffeur. Tu vois des voitures carbonisées. C'est un peu de Mad Max en vrai, quoi. J'ai pris le téléphone, j'ai filmé pour peut-être éventuellement un documentaire. À ce moment-là, je flippe un peu parce que. Mais en fait, cette excitation d'espèce de gosse, la même excitation que quand j'avais 8 ans, quand je tirais au pistolet à billes sur un pigeon ou j'en sais rien. Tu vois, ce truc de j'ai fait une connerie, en fait, elle m'excitait presque. Parce que je me disais, bon, faut que ça passe vite, mais c'est cool, je suis en train de vivre un truc unique, quoi. Parce que le danger, il me plaît. En fait, quand je m'approche de ma finitude, c'est dur de dire ça, mais c'est tellement vrai, c'est plus je m'approche de ma finitude, plus je me sens vivant, quoi. Donc, ouais, à ce moment-là, j'ai eu un peu peur, mais pas plus que des 300 poids lourds qui me passaient à côté chaque jour, parce que. J'étais tout petit pour eux.
Ce danger t'excite finalement.
Ouais, il m'excite, des fois il me fait peur, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, j'ai été longtemps à moitié agoraphobe. J'ai plus peur des humains que des animaux. J'ai peur de plein de choses en fait. Moi je prends des risques évidemment, mais j'ai le vertige, tu vois, j'ai plein de trucs qui me font peur dans la vie, mais ce qui me plaît c'est d'expérimenter, c'est de faire les choses. Et d'essayer en fait, d'essayer de m'améliorer, d'optimiser les choses, mais de devenir un peu meilleur, un peu plus grand, devenir un peu solide. J'aime pas ce truc de super-héros, quoi, parce que moi je suis pas du tout invincible, je chiale tout le temps quand je suis sur mon vélo, je craque 100 fois par jour, mais en même temps j'y arrive, donc voilà. Maintenant les gens ça les fait rire parce qu'ils disent, wouah, il nous refait encore la scène du pleur.
Steven, je prends la balle au bond là. En arrivant à Dakar, à la fin de ton périple, tu déclares, je n'arrivais même plus à pleurer, alors que j'ai versé tant de larmes tout au long de mon aventure.
Petit à petit, des gens s'accumulent jusqu'à 25-30 km de Dakar. En fait, c'était le lendemain de la réélection du président du Sénégal. Et c'était la fête
D'accord.
nationale, en fait. Et ils
D'accord.
voulaient juste faire la fête autour de moi. C'était le prétexte absolu pour se dire, on bloque la route pour ce mec. Et je me suis pris pour Zinedine Zidane, France 98, sur les Champs-Élysées. Tu vois, pendant. T'imagines, c'est quand même une espèce d'autoroute. C'est une quatre voies. Ils ont bloqué toute la route pour Steven Le Yannick sur son vélo, tout dégueulasse en tenue de cycliste. J'étais bouleversé en fait, mais j'ai même pas pu craquer parce que en fait j'ai filmé en même temps et je voulais montrer ça aux gens. Je dis je peux pas garder ça tout seul et j'ai aucun regret là-dessus parce que c'était ouais c'est un des plus beaux moments de ma vie. de cyclistes et même d'humains, ouais. C'était de la joie en fait. Je pense qu'il n'y a que l'Afrique qui peut te procurer ça.
On va évoquer tes objectifs futurs, mais d'abord les projets que tu as réalisés en étant en double, à deux, et notamment la traversée du lac Baïkal sur ce lac gelé, 700 km de long. Là, tu repars un peu dans l'univers, en tout cas dans les climats rencontrés en Himalaya.
On dit que le bonheur n'est réel que s'il est partagé, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était la vérité. Je prends maintenant beaucoup plus de plaisir, enfin, sauf à Dakar, dans l'Himalaya, mais j'ai des plaisirs intenses à partager des trucs.
Et là, tu partages donc avec Perrine Fage, cette triathlète qui pense comme toi, qui a la même philosophie de vie.
Ouais, Perrine, elle est extraordinaire dans son genre, c'est-à-dire que bah, elle est avocate pour une chaîne de télévision, elle a une vie assez cadrée, mais en même temps, elle est capable d'avoir le record du monde entre Londres et Paris en traversant la Manche à la nage, enfin des trucs sympas comme ça, quoi. Elle fait plein d'exploits comme ça, elle a fait plusieurs UTMB, plusieurs ultra trails à travers le monde, et là, elle me propose de traverser ce Baïkal, donc lac gelé. Deuxième plus grosse réserve d'eau douce du monde. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Ça coûte combien? Je regarde. Combien ça coûte? Quel est le projet? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le matériel? Parce que c'est un lac gelé, donc c'est pas le même matériel qu'évidemment dans l'Himalaya, mais encore moins de Dakar. Et voilà, et on part, je contacte des aventuriers, des navigateurs, parce qu'il y a quand même du vent sur ce lac, à savoir comment est le peuple russe, comment sont les vents là-bas, parce que c'est exposé quand même au vent, comment est la neige, comment est la glace, plein de choses. Est-ce qu'il y a des animaux? Parce qu'il y en a en fait.
Et ça commence mal le premier jour puisque tu te fais foutre en l'air par une voiture.
Ouais, juste avant, je contacte une aventurière française qui a traversé le lac un mois et demi avant, sans aucun problème, en passant côté est du lac. Et elle me dit, je te conseille vraiment de passer au même endroit que moi. Tout le monde me disait de passer de l'autre côté. Je l'écoute. Donc Perrine me suit en me disant, Steven, t'es sûr? Je dis, OK, bon, c'est pas pour rien qu'elle m'a envoyé un message. Je fais confiance à la vie. Je suis. Et on le fait. Et en fait, tous les Russes nous disent d'arrêter. Certains mettent la voiture au milieu pour nous dire, mais vous allez être bouchés au bout, quoi. Faites vraiment gaffe, c'est dangereux. On fait demi-tour. Et en faisant demi-tour, au bout de 5 km, du coup, on avait déjà roulé à 80 km sur un lac gelé. Ça va pas très vite, donc on avait roulé beaucoup. Je me fais renverser, ouais. Je me fais taper tout l'arrière du vélo. Heureusement, c'est passé à 2-3 cm de mon genou par une voiture qui arrivait en face. Et comme tu le sais, sur la glace, c'est pas le même freinage que sur la route, tu vois. Là, les distances de la sécurité routière, elles fonctionnent pas, quoi. Là, putain, la voiture, elle a freiné, je pense, à 80 mètres et elle m'a foncé tout droit devant. J'ai fait un carambolage avec mon vélo et ils m'ont explosé mon vélo, explosé ma poulka qui était derrière, donc l'espèce de luge qui me suit pour transporter toutes mes affaires. Et donc là, bah, Perrine a été en grosse panique parce qu'elle pensait que j'étais blessé, que mon vélo était cassé. Et en fait, les Russes m'ont aidé, enfin surtout un Russe, un ancien militaire, il m'a emmené dans des magasins, j'ai réparé mon vélo un peu à l'arrache. On est reparti le lendemain, on est reparti un peu fort, très tôt dans la nuit, vers 3-4 heures du matin. Et puis on a essayé d'avancer parce que c'est pas la même chose que sur un Dakar ou sur l'Himalaya. Les conditions, ça change tout le temps en fait sur le Baïkal.
Ouais, et puis en plus, faire du vélo sur la glace, c'est quand même pas donné à tout le monde, même si, il faut le préciser, tu roulais avec ce qu'on appelle un fat bike, c'est-à-dire un VTT avec des roues de très grande dimension, des pneus de très grande dimension et crantés.
Ouais, il y avait des clous, mais j'ai pris ça aussi pour préparer des futures expéditions, notamment en Arctique et en Antarctique, qui ont des climats un peu similaires, même si le réchauffement climatique fait qu'au pôle Nord, il fait vraiment chaud, et maintenant, tu peux plus rouler jusqu'au pôle Nord. Hein. Pôle Sud, tu peux, par contre. et je préparais une expédition, enfin, je la prépare toujours au pôle sud et au pôle nord. Et c'était le vélo que je voulais emmener. C'était pas le vélo parfait pour le Baïkal. Perrine avait un vélo beaucoup plus léger, beaucoup moins chargé parce que je portais énormément d'affaires. Et puis c'est dur de rouler avec un fat bike. Et c'est lourd, quoi. C'est lourd. La neige, c'est l'enfer. T'imagines, on va à 2 km/h depuis 3 heures. 2 km/h, c'est la moyenne d'un marcheur, et encore un marcheur lent dans les rues de Paris, quoi.
Ouais.
Et ouais, quand vous emmenez vos enfants à l'école, bah c'est à peu près la vitesse.
Mais
Et moi,
toi,
j'étais
t'étais à
en train de
vélo.
faire en train de faire un soi-disant exploit sur le lac Baïkal. Alors imaginez la colère de Perrine quand elle voyait le soi-disant champion, ancien champion de vélo qui va à 2 km/h sur le lac. Ouais, c'est pas évident, ouais, psychologiquement.
Steven, moi je voudrais maintenant qu'on évoque ton grand projet, forcément un peu ralenti par la période troublée que nous vivons tous dans le monde entier. Projet intitulé 666 Project. Je fais le pitch rapidement, puis tu vas nous expliquer pourquoi et comment. C'est parcourir 6 déserts les plus hostiles de la planète sur 6 continents et en 6 mois, 6 fois 1 mois. Pourquoi ce projet pharaonique?
J'ai parlé de Dakar, j'ai parlé de ce retour d'Himalaya. À ce moment-là, dans l'avion, j'avais déjà ce projet dans la tête. J'avais déjà cette espèce de tour du monde en accéléré, en allant sur des territoires pas du tout faits pour un vélo, pas du tout faits pour un humain. Mais en fait, ce qu'on est en train de créer, hein, mais c'est pas aujourd'hui, hein, parce que là, on se réveille sur le réchauffement climatique, sur le dérèglement climatique, sur la pollution des océans, etc., comme si c'était arrivé hier. Et aujourd'hui, on dit aux gens, bah, il faut recycler, il faut faire ci, il faut faire. Maintenant, c'est les gens qui sont responsables. Alors que toute cette industrie qui a produit, surproduit et réchauffé la planète, quoi. Parce que tout le monde a envie de gagner de l'argent, de réussir. Mais on est dans un monde qui marche sur la tête quand même, quoi. Il y a des incendies gigantesques, il y en a eu en Australie, il y en a aux États-Unis. En fait, tout s'accélère et tout devient plus spectaculaire. Et en fait, moi, je veux encore mettre un humain, moi en l'occurrence, dans des univers absolument pas faits pour l'humain, avec un engin quand même assez technologique, qui est un vélo, mais quand même assez dénu, enfin. On est quand même assez nu hein, avec un vélo, même si j'ai des équipements pour le grand froid. Et je veux montrer que bah, l'adaptation de l'homme à ces univers-là, elle n'est pas évidente, que ça soit un froid extrême jusqu'à moins 50, moins 60, voire moins 70 degrés, jusqu'à plus 50, voire plus 60, sachant que le cerveau humain, selon certains scientifiques, il fond à 60 degrés. Bon, si le corps est à 60 degrés, évidemment. Moi, je veux montrer ça, je veux montrer ces univers aussi sous un autre angle, parce qu'évidemment, un idiot avec un vélo en Antarctique, si tu arrives à faire des images ou ressortir avec un drone juste l'ampleur des dégâts et juste le spectaculaire de ces univers, avec un homme tout petit, parce qu'on est des tout petites personnes, on est tout petits individus quand même sur la planète, et on a tout pété. On est en train de se faire du mal et je mélange en fait cette souffrance que j'ai à l'intérieur à ce moment-là avec la planète. Et c'est fou parce que c'est exactement comme ça que je pense. C'est exactement comme ça que je pense. C'est que me faire mal dans ces univers, bah, je pense que ça peut faire ressentir ou responsabiliser certaines personnes et pas que, ouais, pas que le particulier, quoi.
Alors, tu vas donc parcourir 6 déserts en Amérique du Sud, entre le Chili et l'Argentine, le désert d'Atacama, en Asie, le désert de Gobi, l'Arctique, tu l'as dit, l'Antarctique, le désert de Simpson en Australie, et puis tu repartiras en Afrique pour t'intéresser au désert de Kalahari. Ça fait beaucoup, beaucoup en 6 mois quand même. Tu penses que physiquement, c'est possible?
Tu vois, est-ce que c'est pas plus dur d'être confiné comme on l'a été? Est-ce que c'est pas plus dur d'être enfermé dans une maison en Libye ou dans d'autres pays, tu vois? En fait, ce que je fais, c'est quand même, c'est quand même de la rigolade par rapport à ce que vivent d'autres gens à travers la planète. Évidemment que c'est dur, évidemment que ça va être parfois inhumain, parfois complètement dénué de sens parce que ça ira trop loin, comme des fois je suis allé dans l'Himalaya. Mais en fait, ça donne tout ce sens à ce projet parce que c'est la dignité de l'homme de donner un sens à sa vie. Et ça, c'est le sens que j'ai donné à ma vie. C'est transmettre des valeurs, essayer de parler de valeurs qui sont beaucoup plus grandes que moi, ma petite personne, à travers ce que j'aime faire le plus au monde, c'est-à-dire faire du vélo. Donc ouais, ça va être dur, mais le vélo, c'est dur. Hein, je dis toujours, on joue pas au vélo, hein, on joue au football, on joue au tennis, on joue au rugby, mais on joue pas à la boxe, on joue pas au vélo.
Steven, est-ce que c'est pas finalement ce côté écorché vif qui te donne ce supplément d'énergie te permettant de réaliser tous ces exploits?
C'est sûr, parce que j'ai la rage au ventre, mais en même temps, il y a des gens qui me considèrent comme un espèce de sage, alors que je suis en même temps un colérique absolu qui peut être totalement apaisé, parce que j'ai pratiqué énormément la méditation silencieuse, notamment au Népal. Mais en même temps...
Enfin, à l'intérieur, ça boue.
Oui, à l'intérieur, je suis un espèce de volcan qui a toujours besoin de bouger. Et j'adore ne rien faire, pas trop longtemps, comme toi, Denis, d'ailleurs.
Mais c'est vrai.
J'adore découvrir, en fait. J'adore faire les choses. J'adore expérimenter. Et oui, c'est sûr que dans un moment, les moments où les gens me voient très courageux, j'ai cette rage d'aller chercher loin, de faire ressortir aussi l'enfant hein, que j'ai été, de me revoir quand j'étais môme et ne rien lâcher en fait. Ne rien lâcher parce que je pense que c'était plus dur pour moi à l'époque, même de vivre, tu vois, qu'aujourd'hui. Et je sais qu'il y a des gens qui souffrent, mais à l'époque de Dakar, même sur l'Himalaya, j'ai reçu des messages de gens, de soutien, mais même de gens qui me disaient « mais t'es en train de sauver mon mari de sa phase terminale de cancer ». Et je fais une conférence la semaine dernière, il y a quelqu'un qui me dit, il y a un jeune homme qui vient me voir, il est en pleurs et il me dit « tu sais que tu m'as sauvé la vie ». Et je peux pas craquer à ce moment-là devant lui, parce que mais profondément je suis intouché, honoré, mais en même temps je suis bouleversé. Quoi. Comment je suis capable de faire ça juste avec un téléphone ou des films, des documentaires? Et je suis un humain, quoi, tu vois. Mais en fait, je me mets tellement à poil dans mes documentaires à donner, tu vois, à donner aux gens, montrer mes failles, mes faiblesses et la grandeur de l'homme, quoi. Dépasser ses limites.
Qu'est-ce qui pourrait t'apaiser aujourd'hui, Steven?
Pas une femme. Non, je sais pas.
C'est vrai?
La méditation m'a beaucoup apaisé au Népal. La méditation silencieuse, j'ai fait deux fois Vipassana, tu sais, les méditations silencieuses de 10 jours. Ça a changé ma vie, ça a changé ma vision sur plein de choses, ça m'a réouvert à plein de choses et peut-être d'être papa, tu vois, je parlais d'une femme, mais peut-être d'être papa. Il y a beaucoup de papas qui me disent ça, ils me disent « t'as de la chance, Steven ». Je dis « mais pourquoi ?» Bah, parce que, tu vois, moi, je rentre à la maison, là, il y a les enfants amenés à l'école demain, il y a ma femme et qui m'attend à la maison, j'ai des choses à faire. Et je leur dis, ben oui, mais j'ai choisi ça. C'est les enfants aussi au Népal qui m'ont apaisé. Tu vois, j'ai été prof dans les bidonvilles de Katmandou et c'est ces enfants qui m'ont apaisé, quoi, qui m'ont fait me sentir grand, quoi. Et il y a beaucoup de papas aussi qui m'ont dit, mais Steven, dès que tu auras des enfants, tu vas descendre de 10 étages, quoi. Tu vas arrêter d'être en colère.
C'est la prochaine aventure de ta vie, devenir papa.
Ouais, je pense que ça sera peut-être sans doute la plus grande, parce que ça serait ma plus grande responsabilité, au-delà de mes projets. Et c'est drôle, parce que c'est la première fois que je dis ça. Mais
Eh ben, c'est bien de l'avoir dit dans Vie d'aventure. Finalement, on comprend, Steven, que tu ne disputeras jamais le Tour de France, mais que tu as réalisé ton rêve. Vivre du vélo en l'associant avec le voyage, la découverte, le dépassement de soi et la réflexion par rapport à l'évolution de ce monde qui ne tourne pas toujours très rond. En fait, ne pas devenir un champion cycliste a donné un sens à ta vie. Merci beaucoup, Steven Le Yarrick, d'être venu dans Vie d'aventure.
Merci à toi, Denis.
Merci infiniment de votre fidélité. Quel bonheur de partager cette aventure podcast avec vous. Alors si vous avez des remarques, des suggestions, des propositions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou encore Facebook. Si l'épisode vous a plu, profitez-en pour vous abonner, partager, laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Vie d'Aventure. Je compte sur vous. Très belle journée.